réaction, commentaire. C'est la libre antenne BTLV.
Photo mystérieuse, rêve lucide, OVNI en Occitanie, expérience paranormale au château de Vos, OVNI en croisière, c'est le sommaire de cette nouvelle libre antenne 1h30 consacrée à vos témoignages. Vous avez vécu un fait qui relève du mystère, de l'inexpliqué. Ce rendez-vous est fait pour vous. Comme tous les lundis, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Vous êtes des millions à travers le monde à avoir vécu des expériences dites paranormales sans avoir eu aucune explication. Avez-vous pu au moins en parler autour de vous? La question est légitime quand on sait que c'est souvent le plus dur, devoir garder pour soi un tel fait. Voilà pourquoi cette libre antenne est faite pour vous, 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. On attend vos témoignages. Vous pouvez témoigner en toute quiétude et surtout en tout anonymat. Vous nous voyez, on ne vous voit pas. Avec moi, dans cette aventure, l'homme des zones paranormales, monsieur Jocelyn Evkel. L'air sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Salut Jocelyn.
Salut Bob.
Ça va?
Oui, très bien.
Bon, applaudissements.
Ouais. Voilà. Mais c'était une image, Tom. C'était...
Bon, on est ravis de t'accueillir.
Vous n'êtes pas.
On est ravis de t'avoir avec nous. Il est l'homme des réseaux sociaux. Tu viens d'en parler en lien direct avec vous. C'est Tom Hanan. Salut Tom.
Bonjour. Bah, j'applaudis de façon imagée alors.
Voilà, moi aussi, alors. Bon,
ravi de te savoir. Vous allez pouvoir réagir bien sûr à tout ce qui va être dit ici ce soir. Il est dans l'actualité avec un bouquin OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Il va être avec nous pendant un petit moment, jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est Egon Kragel. Salut mon Egon.
Hello Bob.
Bon, ravi. Ah oui, applaudissements.
Je vais rougir là.
Bon, magnifique ouvrage, bien sûr, sur lequel on reviendra. Avec ton œil d'historien de l'ufologie, tout comme d'ailleurs le fait avec beaucoup de discernement, Jocelyn, tu vas pouvoir écouter ce qui va être dit ici.
Avec plaisir.
Alors, on n'a pas beaucoup de témoignages. Je crois qu'on a 2 témoignages OVNI. C'est assez rare, mais je sais que le mystère, quelle que soit la forme qu'il prend, vous intéresse, messieurs, donc on va en parler, bien sûr. On va saluer tous ceux qui viennent d'arriver, Tom, sur les réseaux.
Ah, si on les salue un par un, là, ça va être très long. Hein. Il y a déjà presque 86 personnes sur Facebook, une dizaine sur Twitch et sur YouTube. Donc, on leur dit bonjour. On fait un bonjour groupé. Hein.
D'accord.
Parce que sinon, on n'a pas fini. Hein.
Vous êtes des milliers chaque semaine à nous rejoindre et c'est tant mieux. Merci. Profitez-en pour partager cette émission, faire connaître BTLV au plus grand nombre. Le programme de la semaine, avant d'accueillir Claire, dans un instant, qui sera la première à témoigner. Regardez ce qui vous attend. Après moi, David Gallet prendra le relais, si vous le voulez bien, avec l'énigme Jeanne d'Arc dans un nouveau numéro des Mystères de France. Demain, c'est Sandrine Chopin qui va recevoir le docteur Olivier Chambon pour les psychédéliques. Sont-ils prêts sont-ils des accélérateurs spirituels? C'est une vraie question. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans la Silicon Valley, on a du microdosage de LSD. Beaucoup de toubib envisagent ça pour permettre des perceptions et puis une ouverture d'esprit assez incroyable. Il faut bien évidemment le faire sous suivi médical. C'est ce que d'ailleurs les études montrent, hein, c'est ce qu'évoque Olivier Chambon dans cette émission. Les mystères de la cryptozoologie, c'est... Alors, très bon rendez-vous mercredi dans les Affranchis de l'Info avec Louis Chauvillard, Michel Ballot. Vous savez, c'est l'homme qui au Congo est allé sur les traces du dernier dragon. On en a fait un peu la une des journaux, donc il sera avec nous. Et Braji Belovac.
Et le Mokele Bambe.
Voilà, exactement. Ouais. Mokele Bambe, exactement. Et Braji Belovac qui sort Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité. Tu as lu le bouquin, je te l'ai prêté. Magnifique, hein.
C'est dément.
Ouvrage
dément.
Incroyable, c'est celui-ci.
Et vraiment, ce phénomène du dogman mérite réflexion et mérite qu'on s'y penche parce que c'est absolument incroyable. Au début, on a l'impression que c'est une sorte de gag. Mm. Et puis, en persévérant dans la lecture, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'observations de cette étrange créature. Mm. Je pense que c'est un nouveau cryptide qui mérite ses galons.
Et qui est à l'opposé du Bigfoot. Le Bigfoot qui est plutôt quelque chose, ou quelqu'un, ou une personne, ou une créature qui reçoit. Alors que le Dogman, visiblement, vampirise un peu plus. Donc on aura l'occasion d'en parler mercredi soir. Mercredi aussi, la sociocratie avec Yanis Camus, présentée par Annabelle de Villedieu. Jeudi, les suivants disiez. Ce sera le grand retour d'Antoine Gigal sur BTLV. On aura l'actualité, bien sûr, de l'Égypte, du côté de l'archéologie, et puis c'est suivant d'Isis. Accéder au monde subtil grâce au pouvoir magique du souffle, c'est une nouvelle masterclass qui vous sera proposée par Sandrine Chopin. C'est sur inscription, Je sais que Tom va mettre les liens afin que vous puissiez vous inscrire. Oui. La revue de presse du mystère, c'est vendredi avec le sieur Tom et moi-même. Et puis, on terminera avec bouddhisme, un cœur spirituel. J'aurai le plaisir de recevoir Laurent Hugueli. Donc, ce sera la semaine qui vous attend. En tout cas, c'est la semaine qui vous attend sur BTLV. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Je me tourne vers Pierre-Alexis avec sa grosse voix, on l'entend déjà. Lui demander de mettre en ligne Claire qui est avec nous. Bonsoir. Claire, comment allez-vous? Ça a changé, donc en fait. Donc voilà, ben oui, mais il faut me le dire. Comment voulez-vous que je sache? C'est toujours comme ça. Alors, je vais vous donner la petite cuisine interne. Avant l'émission, 5 minutes avant, j'ai dit, on a la première? Non, mais j'appellerai tout à l'heure. Et voilà, la preuve, c'est que je n'ai pas finalement Claire. C'est Ricky qu'on a alors? Voilà, Ricky est avec nous. Bonsoir Ricky.
Oui, bonsoir Bob, ça va?
Oui, très très bien, ravi de t'accueillir une nouvelle fois. Tu as déjà témoigné sur BTLV, tu es un fidèle abonné et fidèle auditeur de BTLV et on ne peut que t'en remercier. Tu voulais évoquer un rêve lucide, toi, c'est ça?
Oui, voilà. En fin de compte, si tu veux, c'est un rêve que je voulais parler parce qu'il y a à peu près BTLV, il y a pas la dernière fois, mais la fois d'avant, il y avait un témoignage qui ressemblait à ça, qui m'a poussé un peu à témoigner justement ce rêve que j'avais fait.
Oui.
Pour expliquer ce rêve, c'est que je dis rêve lucide parce que généralement mes rêves, 99,9% de mes rêves, c'est à peine si je m'en souviens. Et celui-là, je m'en souviens comme c'est, même maintenant, comme si c'était quelque chose réellement que je voyais en vrai, quoi.
Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est un rêve lucide? Parce qu'en fait, il y a plein de rêves dont on se souvient parfaitement et on n'était pas réveillé, en tout cas, on n'était pas lucide. On était dans notre sommeil, alors je ne sais pas s'il est paradoxal, pas paradoxal, mais dans tous les cas, et on s'en souvient quand même. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, il est lucide ce rêve?
Alors déjà, c'était la vivacité de ce rêve, c'est très fort. En fait, c'est réellement comme si j'étais éveillé. Et surtout, c'est que les détails, c'est-à-dire tous les détails de la chambre et tout, ma femme où elle était à côté de moi, sur la gauche exactement, parce que moi je dors toujours à droite, tous les détails étaient exactement précis, en fait, extrêmement précis. Et donc voilà, par rapport, et puis surtout de me souvenir entièrement tous les détails, vraiment tous les détails avec une grande précision. Donc voilà, donc c'est ça qui me dit, ce rêve n'est pas comme les autres rêves que je fais. Puis c'est des rêves qui sont un peu perturbants hein, quand même, qui ont tendance un peu pas fatiguer, mais je ne sais pas comment expliquer.
Mais perturbants à quel niveau, Ricky?
Ben disons, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à quelque chose de réel, comme si on touche quelque chose, comme si vraiment c'est... alors que souvent les rêves, on n'a pas vraiment des sensations. C'est-à-dire, on voit quelque chose, on voit une image... Voilà, mais là vraiment c'est tellement réalistique que on se demande même si vraiment on rêvait en fin de compte.
Mais après quand on fait un rêve lucide, c'est qu'on a conscience de rêver. Est-ce que là vous en avez conscience au-delà des détails?
Ben non, justement, c'est-à-dire que pour moi c'était quand je fais un rêve, bon, je me réveille le matin, je sais que j'ai fait un rêve. Là, par contre, c'est pas quelque chose, c'est comme si j'avais conscience que je l'avais vécu, en fait.
Alors, est-ce que c'est ça, finalement, peut-être la singularité de la chose, c'est que vous avez la sensation d'avoir vécu réellement et d'être acteur de ce rêve et pas de spectateur, parce qu'on est souvent spectateur dans le rêve, c'est-à-dire qu'on vit des choses, voilà, on est impuissant. Alors que là, vous pouviez agir dans le rêve, c'est ça?
En fait, compte un petit peu, parce que justement, j'avais une forme de paralysie du sommeil.
Ouais.
Et en fait, compte, c'est que je pouvais bouger un petit peu. Et c'est là où, en fait, compte que ça se différenciait par rapport à un rêve où, on va dire, on subit un peu le rêve. Là, dans ce cadre-là, j'avais une possibilité, on va dire, de bouger en quelque sorte. Ça va.
D'accord.
Un peu comme dans un état modifié de conscience.
Peut-être, c'est pour ça.
Peut-être
donc,
plus,
voilà.
Voilà.
Voilà, donc peut-être, effectivement, à ce niveau-là, ça pouvait être quelque chose de... Peut-être que j'étais réellement en train de rêver, mais c'est tellement bizarre.
En même temps, vous rêviez que vous étiez dans votre chambre, en fait, c'est ça. C'était pas quelque chose qui vous a projeté ailleurs
Non, du tout. Surtout que c'est une chambre que j'ai restaurée récemment. On restaure une maison. Et c'est une nouvelle pièce, en fait, compte. Donc, il y a tous les détails. Alors, parce que théoriquement, j'aurais pu rêver que j'étais encore dans la pièce d'en bas. Et là, c'est une nouvelle pièce à l'étage de cette maison.
Et pendant tout le rêve, vous êtes resté dans cette pièce?
Tout le rêve.
Tout le rêve.
Totalement.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que vous avez vu dans ce rêve, je ne sais pas, des choses qui sont rentrées dans cette chambre
Alors, pour expliquer le rêve exactement, c'est que je vois, j'ai une fenêtre d'ailleurs qui est en face du lit sur la gauche, une fenêtre assez grande que j'ai installée avant, et je vois un cube qui parfait, un cube parfait qui tourne, mais c'est-à-dire le cube sur un angle, hein, en fait, compte, c'est-à-dire sur une des pointes qui tourne devant la fenêtre, donc qui est assez, assez gros, et ça ressemblait en réalité un peu comme quand on regarde le soleil avec un télescope, mais c'était très fort, et puis on voyait un petit peu comme de l'énergie, un peu comme un plasma, comme quand on regarde le soleil, en fin de compte. Et les arêtes étaient très vives et tout. Il y avait un bruit en même temps, j'avais ce bruit qui ressemblait à un peu comme un bruit de rotation. Alors bon, pour faire un peu un comparatif, mais c'est pas exactement ça, on va dire, bon, l'ancien film Les Envahisseurs, hein, vous savez, avec David Vincent, il y avait ce bruit de ces soucoupes quand elles se posaient, c'était quelque chose de presque analogue à ce son-là, mais avec un effet un peu, peut-être un peu plus de souffle en même temps, mais très fort, comme une machine qui tourne en fin de compte. Et quand je vois ça, comme ça, je suis dans mon lit. Comme je suis un passionné, on va dire, un petit peu aussi pour avoir déjà vu des phénomènes OVNI, je me suis dit, je voulais absolument aller voir, me lever. Et ma femme qui dort justement sur ma gauche de moi, j'essayais de, avec mon, je pouvais à peine bouger le doigt et un petit peu la tête. Et avec ma main gauche, je voulais, c'est lui griffer la jambe pour la forcer à me faire sortir du lit, en fin de compte. Et j'y arrivais quasiment pas, quoi. Et voilà, donc ça...
C'est la première fois que vous avez une expérience comme ça, ou vous avez déjà eu des rêves alors, bizarres, marquants, lucides?
Alors, moi, j'ai déjà eu enfin, des rêves lucides, mais il y a longtemps, une ou deux hein, dans ma vie à peu près, mais c'était plutôt des personnages, des gens que je voyais, ou des personnes que je connaissais pas, mais qui me parlaient. Voilà, ça, c'est la seule chose que j'ai eue. Sinon, tous les rêves, on va dire, comme je dis, presque 100% des rêves sont des rêves classiques. Et quand je me réveille, je me rappelle la fin du rêve, mais c'est vraiment la fin et on oublie très vite. Mais ça dure 2-3 secondes. Mais le rêve, c'est très rare que j'arrive à me rappeler du rêve.
Et votre...
Alors que ce rêve-là, maintenant, je le vois toujours, j'entends toujours le bruit. Je vois toujours cet objet qui tourne devant la fenêtre, comme ça. Voilà.
Et votre ressenti pendant le rêve? Vous étiez dans un état de fascination? Vous aviez peur parce que vous n'arriviez pas à bouger?
Alors, pas peur, non. Je n'arrivais pas à peine à bouger, mais vraiment à bouger, comme je dis, la main gauche, pour que j'essayais de griffer ma femme avec, à peine. Je veux dire, un petit peu la tête, uniquement la tête, un petit peu. Le reste du corps, je ne pouvais pas bouger. Mais ça m'embêtait parce que je voulais le voir, vous voyez. Et comme c'est quelque chose, que je m'intéresse beaucoup. Pour vous dire, j'ai même fait un voyage aux États-Unis. J'ai visité d'ailleurs à Roswell le fameux musée, tout ça. J'ai fait un super voyage quelques années. J'ai même touché l'église, vous savez, à Santa Fe, l'église Loretta, vous savez, la chapelle Loretta,
la chapelle avec
les fameux
escaliers.
On en avait fait l'émission ici, Jocelyn. En fait, là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux faits, finalement. Il y a cette paralysie un peu, pas complète, hein, mais du sommeil, mais qui vous empêche de bouger. Et puis, il y a cette lucidité dans le rêve qui vous permet de voir ce cube, finalement. Alors, il y a à la fois un phénomène ufologique. On a la sensation que c'est peut-être ce phénomène qui a déclenché cette paralysie. Comme certains disent, parfois, c'est des petits bonhommes qu'ils voient dans leur chambre et ils sont complètement bloqués sur leur lit sans pouvoir bouger. On a la sensation que c'est un petit peu ça dans votre rêve. Rêve lucide, mais qui a quand même une connotation ufologique, hein, quand même.
Et justement, quel est votre ressenti, votre sensation quand vous voyez ce cube en rotation comme ça? C'est spontanément.
Alors, spontanément, c'est-à-dire que je me dis, c'est pour moi, l'idée, c'était un genre d'OVNI, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'après ça, après ce rêve, le lendemain, je me dis, je vais regarder, parce que souvent, on voit des ovnis en forme de disque, en forme de V, enfin, des formes comme ça, mais je dis, jamais en forme de cube.
Oh,
et
si,
je regarde
si,
sur
si,
Internet,
si,
et puis je vois qu'effectivement...
Je peux vous dire que oui.
Qu'il y a des... Voilà, moi, je ne savais pas qu'il y avait en forme de cube. Bon, il y a des tic-tac, il y a tout ça.
Ah, vous savez, c'est une quincaillerie incroyable.
Et je vois qu'il y a ça.
Si on dresse un catalogue,
il y en a un qui ressemble.
Si on dresse un catalogue de ce que sont les ovnis, je crois que on tombe du plafond.
Ouais, oui. Alors, déjà, on a posté un article il n'y a pas longtemps sur un cube qui avait été observé dans le ciel. Hein, donc, je vous invite à aller sur btlv.fr pour découvrir tout cela. Mm-hmm. Bon, comme à l'accoutumée, Ricky, on n'a pas d'explication. En tout cas, merci de nous avoir témoigné de ce rêve assez particulier ce soir sur BTLV. Faites comme lui, 01 86 22 21 20 ou redaction@btlv.fr.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Si vous arrivez, soyez les bienvenus, c'est la libre antenne comme tous les lundis. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Partagez, mettez des pouces bleus, Jocelyn.
Un tout petit commentaire, parce que j'ai très très vite regardé comment on interprétait chez Jung, par exemple, chez Freud, le fait de rêver d'un cube. Mm-hmm. Et en fait, il y a un côté... Le cube, par exemple, se distingue du carré. Le cube a un côté enfermant. Mmh. Et donc, notre auditeur pourrait peut-être se poser la question aussi, s'il n'y a pas quelque chose où il se sentait... Alors, pas prisonnier, mais en tout cas, s'il y a quelque chose chez lui dont il éprouve peut-être le besoin de se
d'évasion,
délivrer...
D'évasion, peut-être, de se délivrer de
voilà,
quelque chose.
Voilà, de libérer quelque chose, peut-être.
D'accord. Bon,
voilà, c'est une piste, hein. C'est une piste, hein. Bien sûr, l'interprétation des rêves, c'est très, très subjectif.
Subjectif, mais les rêves sont vraiment révélateurs de beaucoup de choses, hein. Sur notre vie, sur nos méthodes de vie, et parfois peuvent nous apporter des solutions à nos problèmes.
On a fait beaucoup d'émissions ici avec pas mal de spécialistes, hein, notamment Marielle Hurt, qui a animé pendant longtemps des émissions ici, qui vous permettait d'avoir une explication sur la symbolique, parce qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un qui meurt, c'est pas forcément qu'il va mourir, c'est la fin de quelque chose. Enfin, il y a plein de symboles sur les rêves qui sont assez déroutants et très intéressants. En tout cas, affaire à suivre. Ils sont deux, ils sont là. Il y a bien sûr Egon Kragel et Jocelyn F. Keller. Et ils ne seront pas seuls. Mais ces deux-là, vous allez les retrouver samedi. Parce que c'est la semaine. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Réservez vos places pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Incroyable rendez-vous, bien sûr, qui vous est fixé. C'est samedi prochain, le 20 novembre. L'occasion vous sera donnée de vivre des conférences exceptionnelles avec Fernand Schwartz, avec Jocelyn F. Keller, avec Egon Kragel, Philippe Niénard, Christian Doumergue, Joseph Davidovitz, Patrice Marty. Et puis le soir, vous allez kiffer avec la table ronde animée par Sandrine Chopin. Vie antérieure, médiumnité, mémoire cellulaire, astrologie, Anel Akashic. Tout est bon, comme dans le cochon, pour vous permettre de vivre ces rencontres extraordinaires et les finir en beauté avec Pascal Lafargue, Muriel Siron, Florence Hubert, Françoise Dallet, Anne-David Bichot, sans oublier les deux films qu'on va vous diffuser. Reine le Château, en tout cas Da Vinci Code, les véritables mystères, et puis surtout le Château de Fougeray, partie 1 et partie 2. 01 86 22 21 20. Avant de retrouver Gaël qui va nous parler d'un ovni à Antibes, on va faire un tour sur les réseaux, mon Tom.
Les rêves lucides, les rêves prémonitoires, ça fait beaucoup parler dans le chat. Il y a des témoignages absolument impressionnants. Jean-Claude, dans le genre rêve étrange, j'étais enfant et j'ai rêvé de mon instinct qui nous disait au revoir. Le lendemain, on me prenait qu'il s'était suicidé.
C'est presque de la prémonition, là. C'est, oui.
C'est pas presque, c'est de la prémonition.
Mais t'en m'engueules pas.
Non, mais je t'engueule pas, Bob. Je me permettrai pas.
Non, mais alors, c'est vrai.
Non, je me permettrai pas. Il y a Ella, rêve lucide. Un jour...
Il est trop mignon, ce Bob.
Je ne me permettrai pas, Bob, allons. Jamais à l'antenne. Et là, mon rêve très lucide, un jour, un trou béant s'est ouvert dans le ciel. On voyait comme un genre de tunnel et des créatures en sortaient. Les gens étaient sidérés. Mm-hmm. Ça aussi, c'est intéressant. En fait, il y a deux sujets en parallèle dans le chat. Il y a les témoignages des rêves lucides, des rêves prémonitoires. Et puis aussi, une actualité qui nous... On s'est fait piéger, Bob, dans l'actualité.
Ah, sur l'OVNI, on va en parler, on va en parler. Mais... Enfin, on n'était pas piégé, tout le monde a plongé, donc, et on a fait un démenti d'ailleurs aujourd'hui.
On a fait un démenti.
Donc voilà, on en reparlera de donc, cet ouais. OVNI.
Ça, on parle beaucoup dans le chat.
C'était du côté de Montpellier, hein, c'est ça ?
Ah, c'est à Montpellier, donc, voilà, oui. Donc, Occitanie, oui.
On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants d'ailleurs, après Gaël. Gaël est avec nous, 01 86 22 21 20. Merci Gaël d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Bob, bonsoir tout le monde.
Ravi de vous accueillir Gaël. Vous nous appelez toujours du sud parce que vous avez vu votre OVNI Antibes. Est-ce que vous êtes toujours dans le sud ?
Ouais, ouais, je suis sur Vence.
D'accord. Ah oui, le col de Vence, tout ça, machin. C'est
au lieu.
Au lieu quand même ufologique. Alors dites-moi, racontez-moi votre histoire.
Ouais. Eh ben, écoutez, il y a deux histoires parce que il y a le col de Vence où cet été en fait on a eu. Des apparitions sympathiques. Mmh. En fait, on a fait avec un collègue. En fait, le but des. En fait, on a fait des veillées ufologiques au col de Vence, ouais. Comme on fait chaque année. Mmh. Et cette année, avec un collègue, on a lu le livre de Fabrice Bonvin. Mmh. Donc, OVNI Conscience 2. Mmh. Donc, on a essayé de pratiquer les protocoles qui étaient indiqués dans le livre. Mmh. Et écoutez, ça, on a eu quelques résultats, notamment un, c'était lors de la nuit des étoiles filantes.
Ouais.
Moi, j'accueillais des amis. C'était vraiment le crépuscule. Hein, la nuit venait à peine de tomber. Mmh. Et c'est ma femme, en fait, qui commence à s'installer justement pour voir les étoiles filantes. Et elle me dit, tiens, tu as un copain là-haut. Voilà. Donc, je regarde. Enfin, tout le monde regarde. Et là, en fait, on voit une petite boule lumineuse qui est fixe dans le ciel, hein, pas plus grosse qu'une étoile. Mmh. Et d'un seul coup, elle nous fait une accélération, je dirais, sur peut-être un kilomètre, mais une accélération comme une étoile filante. Et ensuite, elle s'arrête brusquement et elle remonte très haut dans le ciel jusqu'à presque plus la voir pour revenir à son point initial.
Alors c'est ça qui est le plus troublant. C'est ça qui est le plus troublant parce que effectivement, ça peut partir, ça peut être une étoile filante, mais si ça s'arrête et que ça revient, il y a un problème. Il y a un problème.
Voilà, en fait, c'est remonté très haut, c'est revenu à son point initial,
ouais.
Et ça nous a refait encore une accélération fulgurante, 5 fois d'affilée en fait. Elle a reproduit ce balai-là, on va dire, pour ensuite s'éteindre, tout simplement.
Alors, ça a duré combien de temps ce spectacle ?
Moi, j'aurais bien dit, parce qu'elle a fait 5 heures, une bonne minute, voire 2 minutes, parce que le temps qu'elle fasse le tour dans le ciel pour revenir, ouais, c'est assez long.
C'était il y a combien de temps, ça ?
On a bien pu profiter.
Cet été ?
C'était cet été, je crois que c'était le 17 août, on était monté pour la nuit des étoiles filantes.
Généralement, c'est dans cette période-là, la nuit des étoiles filantes. Ouais. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que je me dis, mais ils ont que ça à foutre, les extraterrestres, alors qu'accélérer, revenir, accélérer, revenir, accélérer, revenir.
Vous êtes préparé sur Terre ?
Non,
quand
non,
la course,
non, non.
Quand on fait la mais course on, avec des voitures.
On, mais non, mais...
c'est des courses de vaisseaux spatiaux, c'est possible.
Non, mais moi, j'ai eu l'impression,
il y a peut-être des ronds-points qu'on voit pas.
D'un petit clin d'œil pour la soirée.
Oui, ça fait très clin d'œil.
Oui, ça fait genre, tiens, regarde, on est là.
Ça fait un peu démonstration.
Il y a un côté, voilà, un peu démonstratif plutôt, c'est ça. Donc,
et surtout si la boule lumineuse.
Exactement, et puis. Pardon, oui.
Non, allez-y.
Je sens.
Allez-y.
Non, je disais. Oui, je disais, voilà, pour moi c'était une démonstration et un petit clin d'œil parce que ensuite on n'a rien eu, on a eu des étoiles filantes, etc. Mais c'était vraiment. C'était au tout départ de la soirée. Donc c'était ça qui était marrant, quoi. Voilà.
Et alors, est-ce que c'était haut ? Parce que quand on voit les étoiles, elles sont très très hautes quand même, ces étoiles. Quand on regarde le ciel, c'est pas à la portée de main. Est-ce que vous avez la sensation que c'était à la hauteur de ces étoiles ou est-ce que c'était bien plus bas ?
Non, alors il y a l'aéroport de Nice qui est pas très très loin, il est à peu près, je dirais, à 15 kilomètres sur la mer, et la hauteur des avions quand ils passent au-dessus du col de Vence, parce qu'il y a un petit couloir aérien, je dirais c'est à peu près la hauteur des avions qui passent à cet endroit-là. Alors toujours pareil, hein, même au crépuscule, sans nuages, hein, c'était vraiment un ciel super clair. Mmh. Moi j'aurais dit, le col de Vence, il est déjà à 1000 mètres, j'aurais dit peut-être 800 mètres encore, ou 1000 mètres au-dessus.
Attendez, parce que là c'est pas haut, hein. C'est-à-dire que 800 mètres...
Non, c'est pas haut.
Bah, parce que moi je m'attendais
Par contre, elle remontait très haut quand elle faisait son tour, pour, en fait quand elle remontait très haut dans le ciel... Par contre, là, a presque pu l'avoir pour redescendre à son point initial. Mmh. Son point initial, j'aurais dit 1000 mètres au-dessus de nous. Et par contre, quand elle faisait son grand tour, là, on la voyait presque plus à un moment. Enfin, donc, je ne sais pas. Là.
Donc, si c'est à 1000 mètres, que vous la décrivez comme une étoile, en fait, donc ce n'était pas très gros. Ça, la circonférence de cette sphère n'est pas très grosse.
Moi, j'aurais dit qu'un humain aurait tenu dedans. Mais ou peut-être un peu moins gros qu'une voiture, peut-être.
Parce que 1000 mètres à l'œil nu, on voit la taille hein, quand même. C'est pas haut, hein, 1000 mètres. En même temps, vous êtes en pleine nuit. Effectivement, c'est pas aussi simple.
Ouais, c'est pas toujours facile voilà. D'estimer.
Mais 1000 mètres, c'est pas haut. Hein. C'est-à-dire qu'en fait.
Estimer l'altitude voilà. En pleine nuit, c'est
mais,
quand même très
difficile. Mais ça nous ramène à tous ces phénomènes lumineux que l'on voit. On se demande même si c'est solide ou pas solide.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est le mouvement. Oui, c'est une boule lumineuse qui part à un endroit, qui accélère et après monte, et puis après revient à son point initial, c'est pas un phénomène naturel.
Non.
C'est sûr.
Et l'accélération était dingue.
Il n'y a aucun phénomène j'ai naturel qui fait ça.
Des ovnis sur le col de Vence, ça, c'était dingue. J'avais jamais vu ça en accélération.
En tout cas, c'est ce qui embête beaucoup de pilotes. D'ailleurs,
il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis qui se comportaient de cette façon-là sur la vallée de l'Hudson. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens étaient sidérés parce que ils apparaissaient, ils partaient à une vitesse fulgurante et dans la seconde qui suivait, je dis bien la seconde, ils se retrouvaient à la même place. C'est-à-dire que une sorte
bah
de...
Voilà.
Je crois que c'est très démonstratif. Ouais. Moi, j'ai l'impression, avec nos paroles humaines, nos mots humains, que c'est démonstratif.
Ouais. Les aliens sont des crâneurs, quoi.
Oh, bah oui,
bah... Moi, j'ai senti un clin d'œil. C'est-à-dire, bonne soirée... Bonne soirée des étoiles filantes.
C'est surtout, si le protocole finalement de Fabrice Bonvin fonctionne, puisqu'il a eu l'air de fonctionner avec vous ce soir-là, finalement c'est un appel à ces entités venues d'ailleurs ou à ces machines ou à ces je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, ces entités ont répondu présentes et elles ont joué avec le jeu avec vous. Ah, donc voilà, c'était ça qui était intéressant. D'accord. Écoutez, en tout cas, Gaël, merci de nous avoir livré ce témoignage. Très joli témoignage.
On a vu ça depuis longtemps, hein, cette sorte d'interaction entre les témoins et ces objets étranges.
On a eu pas mal de témoignages depuis toujours. Des gens qui nous disent « je voulais voir un ovni, j'en ai vu un ». C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait quelque chose qui appelait et que ce phénomène se montrait à ceux qui voulaient bien le voir.
Pendant la vague belge, comme ça, il y a des choses très étonnantes. C'est-à-dire que les gens voyaient de leur voiture un objet un peu loin. Certains disaient d'ailleurs « j'étais jaloux parce que c'était très loin, je voyais des voitures arrêtées, les gens voyaient de près ». Et à l'instant où il pensait ça, l'objet se retrouvait en quelques secondes au-dessus de la voiture, ce qui terrifiait évidemment les témoins. Hein, les terrifiait. Mais c'est une sorte d'interaction comme ça, de dialogue télépathique, appelons ça comme on peut, hein, on met les mots qu'on peut. Hein, donc,
La terreur, elle peut se comprendre quand même.
La terreur.
Parce que tu es face à quelque chose d'immense, énorme, surtout qu'à l'époque de la Vallée Belge, les mecs disaient voir des terrains de foot.
Quand tu es en voiture, imagine en Belgique, en voiture à l'époque, ces ovnis faisaient la taille d'un stade de foot.
Ouais, c'est ça.
Et il était à 3 mètres au-dessus de la voiture.
Déjà, tu t'es écrasé, la peur d'être emmené, tu ne
voyais plus
qu'est-ce qui va se passer.
Expliquer qu'il ne voyait plus le ciel ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire que ça. C'était complètement opaque. On peut imaginer. Enfin, moi-même, même pourtant qui rêverais de ce genre de démonstration, je crois que je me sentirais tout petit.
Merci Gaël d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Merci. Faites comme lui, 01 86 22 21 20 ou alors redaction@btlv.fr. J'ai vu passer, Mathis, l'offre de l'Abogold. Eh bien, vous savez qu'avec cet Abogold, vous avez plusieurs magazines. Eh bien, il y a le nouveau Science et Spiritualité qui est sorti, qui est très intéressant puisqu'il parle de ce bouquin incroyable, Dieu et la science. D'ailleurs, Mathias Leboeuf va recevoir les auteurs dans pas longtemps. Et puis surtout, on parle du mythe de l'Atlantide dans celui-ci, des peuples mayas, etc. Très, très, très joli magazine. Donc, il vous est offert si vous choisissez la Bogold.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Merci d'être avec nous. Tom, un peu de réseau.
Il y a eu plusieurs témoignages similaires d'OVNI, comme ce qu'on vient d'entendre, mais ils pensent comme moi, les aliens font des rodéos. Mais c'est exactement ce à quoi je pense. Tu sais, on a dû mettre des blocs de béton sur les routes chez nous. Et ils vont faire pareil dans l'espace. Hein.
C'est les Dalton, vous avez vu, en ce moment, il y a trois mecs hein, toujours avec des motos. Là, ils se font appeler les Dalton.
Bah, c'est ça.
Voilà, c'est un peu c'est les Dalton de l'espace.
Ce sont les Dalton de l'espace.
Bon. Bien évidemment, vous pouvez commenter tout ce qui est dit ici. Vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Et partager. Il est avec nous parce qu'il est dans l'actualité. C'est Egon Kragel. OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. On regarde la bande-annonce, on en parle après.
En 2017, le New York Times annonce que les USA étudient officieusement les ovnis. Au même moment, nous découvrons des vidéos d'objets volants non identifiés survolant les navires de l'US Navy. À quoi a-t-on affaire ? Qui sont-ils ? Sont-ils pilotés ? D'où viennent-ils ? Obligé de valider la réalité du phénomène physique, le gouvernement américain a ouvert le champ des possibles tout en rappelant que tout cela n'est pas nouveau. Voilà pourquoi Egon Kragel vous propose de découvrir 12 dossiers OVNI que le Pentagone ne s'explique pas. Des Foo Fighters de la Seconde Guerre mondiale à la vague belge, en passant par le monstre de Flatwoods jusqu'aux ovnis de la vallée de l'Hudson, plongés dans des dossiers ovnis qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Découvrez des ovnis qui défient les lois de l'espace et du temps. OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Le nouveau livre d'Egon Kragel chez Max Milo, dans la collection BTLV, Mystère et inexpliqué. Et bonne nouvelle, jusqu'au 30 novembre, précommandez l'ouvrage à prix réduit. Jusqu'au 30 novembre seulement. Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.
Et profitez-en parce qu'il est en exclusivité, même sur Amazon, vous ne l'aurez pas. Donc voilà, il y est, hein. Vous pouvez le commander, mais vous ne l'aurez pas. Dans tous les cas, là, vous pouvez le précommander à tarif réduit. C'est un petit cadeau qu'on vous fait sur BTLV pour votre fidélité. Les frais de port sont offerts. Alors, 12 dossiers, Egon, il y en a plein des dossiers. Comment as-tu pu faire cette sélection? Parce qu'en fait, c'est arbitraire. Tu dis, tiens, je vais prendre cela. Comment ça s'est passé?
Oh, c'est...
C'est ceux qui te touchent le plus, qui sont les plus...
Oui, effectivement, ce sont des coups de cœur. Il y en a d'autres. Hein. Il y a toujours un format à respecter. Donc, moi, j'étais parti pour écrire un livre de 600 pages.
Non.
Mais bon, donc, vu la contrainte, on me dit non, il faut que ça fasse 250 pages, en gros. Donc, voilà, j'ai, dans un premier temps, comme ça, j'ai laissé parler mon cœur et je me suis dit, allons-y. Sur les premières histoires qui m'ont beaucoup touché.
Ça peut être de bon augure pour un tome 2.
Il y a de quoi faire, parce que moi, de toute façon, le tome 2, il est pratiquement prêt.
Bah oui, on en a déjà parlé. Si tu veux.
Donc, le tome 2 est pratiquement prêt, voilà.
Alors, le bouquin sortira officiellement en janvier, mais vous pouvez le précommander, et notamment sur BTLV. Il ne sera en vente que sur btlv.fr pendant toute la période des fêtes. Et on a d'ailleurs pas mal de... On a un petit truc à vous proposer dès décembre avec les sieurs F. Keller et les sieurs Kragel. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, offrez-vous cet ouvrage incroyable. Alors, puisqu'on parle d'OVNI, on va évoquer effectivement ce qui s'est passé durant le week-end prolongé. Cet OVNI qui a été observé depuis pas mal de jours, hein, d'ailleurs, au-dessus de Montpellier. On va regarder des images qui ont été filmées par une agricultrice et puis par d'autres gens. On voit cette image. Alors, au départ, on voit quelque chose de lumineux dans le ciel. Et puis on va tout de suite voir par une autre vidéo que ça ressemble à ces fameux tic-tac qui ont été filmés par l'armée américaine. Alors bien sûr, on se dit ça y est, ils sont là, ils se montrent au grand jour parce qu'en plus les vidéos sont de bonne qualité. C'est ça, pour la première fois, c'était assez étonnant, on n'était pas du tout dans l'armée américaine. Et à tel point que la presse américaine a relayé ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai regardé les sites américains, il y a eu pas mal de sites américains qui ont évoqué effectivement ce phénomène lumineux en France. Là, on a la sensation, comme c'est du côté de Montpellier qu'au loin, ça a peut-être plongé dans la mer puisqu'on voit disparaître l'engin. Et puis, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et finalement, on a appris deux jours plus tard que c'était Rémi Gaillard, le fameux youtubeur.
Ça a fait pchit.
Ouais, mais c'est bien qu'il le dise parce que ça aurait pu être. Voilà. C'est aussi bien qu'il me donne la possibilité de dire que ce n'est pas parce qu'on arrive à reproduire Picasso que Picasso n'a pas existé, encore une fois. Ça prouve qu'il faut faire très attention. quand même, oui, qu'on peut se faire avoir.
C'est ça la leçon.
Voilà. Parce que moi, j'ai regardé. J'ai eu un doute à un moment donné. L'objet passe devant des arbres. Et en fait, il est toujours derrière les arbres. Et tout d'un coup, il passe et il est devant les arbres.
Ah non, moi, j'ai eu un doute. Alors, je t'expliquerai après pourquoi j'ai eu un doute tout de suite. Mais pas pour les images, pour le contexte.
Alors.
Parce que quand vous avez des images comme ça qui déboulent de nulle part, parce qu'elles déboulent de nulle part. Il faut toujours se poser la question, ok, on voit des images, mais il n'y a pas que les images, il y a autre chose, il y a le contexte. Le contexte, ça veut dire qui a filmé, quand, d'où ça vient, comment ça a été diffusé, etc., qui on voit, enfin, c'est ça le contexte.
Oui, mais, alors, oui, mais là, Jocelyn, tout le monde a plongé, hein. que de TF1 au site américain.
Non, on est beaucoup sur les réseaux.
D'accord, mais toute la presse, toute la presse a plongé.
Pour le coup, je vais me faire le défenseur des ufologues. Il y a beaucoup d'ufologues qui sont montés auprès
de presse.
Oui, les médias.
La presse, les médias ont tous plongé.
Le Midi Libre.
TF1, mais TF1 a fait un 13h dessus. Il y a eu plein de gens qui ont fait.
Oui, mais ils ont relayé parce que Midi Libre en a parlé.
L'Ouest, le journal de l'Ouest.
À mon avis, un peu complice du truc.
Plein. Non. Au départ, beaucoup ont plongé. Et c'est normal. Parce qu'en fait, c'est une actualité assez chaude. Tu la prends. Et après, c'est quand tu commences à.
Surtout, ils savent pas du tout comment analyser ça. Et donc, ils ont relayé en disant, regardez, il y a ce truc bizarre, avec ces images bizarres, on ne sait pas quoi.
Pour rebondir à ce que tu dis...
Mais personne ne se pose des questions derrière. C'est dommage.
On a cherché, avec Bob, à contacter, parce qu'il y avait une source...
Tout de suite, j'ai dit, on appelle le mec de la météo, etc. Ouais. Donc on n'a pas eu l'information.
J'ai trouvé, en l'occurrence, le profil de celui qui avait, entre guillemets, filmé cet OVNI. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas. Je voyais bien qu'il avait lu mon message et je n'ai eu aucune réponse. Et là, 24 heures plus tard, on voit que c'est un canular de Rémi Gaillard. Mais on a quand même essayé avec Bob de voir qui a filmé ça et d'en savoir un peu plus. Ce qui était prévu, c'est de le recevoir à la Libre Antenne. Mais bon.
Mais il n'y a pas qu'une vidéo, il y en a plusieurs.
Dans l'article qu'on a écrit, il y a plein de trucs.
Il y a un expert météo qui était complice. En fait, la vraie leçon, Rémi Gaillard expliquait que.
Ce qu'on appelle le fameux biais d'autorité, c'est-à-dire on se dit, mais si c'est un météorologue, ça veut dire il ne peut pas mentir. La preuve que c'est.
Rémi Gaillard, c'est un humoriste qui est engagé. Il voulait dire, regardez les médias, voulez-vous nous faire croire n'importe quoi, mais maintenant c'est à notre tour. C'est textuellement ce qu'il a dit dans sa vidéo de démenti.
On peut le critiquer ou pas, ça se défend.
En tout cas, c'est ce qu'il dit. On peut débattre sur ça, mais voilà.
Après, moi, ce qui me gêne toujours dans ce type d'affaires, c'est pourquoi on s'en prend toujours aux ovnis. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à crédibiliser ce sujet. On a une armée américaine laissez-moi terminer 2 minutes. Pourquoi on s'en prend toujours à ça? Parce que le problème, c'est qu'on essaie, on a beau essayer de rationaliser, de crédibiliser ce sujet, il y a toujours des gens, et c'est très franco-français, hein, c'est-à-dire que c'est très franco-français, on adore ça, décrédibiliser ce truc, on a eu la même chose pour les crop circles, etc. Et je me dis, c'est un peu con parce que déjà, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas admettre qu'il y ait peut-être des choses bizarres dans le ciel. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les mecs te disent ça, je ne comprends pas ça. Et je me dis, mais pourquoi aller là-dessus? On est à un moment donné charnière, on n'a jamais parlé autant d'OVNI avec des officiels. J'ai encore posté un article de Louise Elizondo qui dit des pilotes lui ont rapporté qu'ils avaient été brûlés. Il y a la sénatrice américaine, on en a parlé la semaine dernière, qui veut faire un GPA. C'est-à-dire qu'on a la sensation que les choses avancent et dans le bon sens, et t'as un tel canular qui va encore une fois remettre tout à plat. Et c'est un peu chiant, parce qu'on repart toujours à zéro. Quoi.
C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire.
C'est chiant.
Mais tu sais, depuis 1942 déjà, les hautes instances américaines ont passé leur temps à décrédibiliser le phénomène.
Ils n'ont plus rien à faire. Hein. C'est nous-mêmes qui nous crédibilisons.
Moi, j'ai été douché et en fait, on va dire vacciné par la vague belge. C'est-à-dire qu'il y a eu, au moment de la vague belge, quand même un intérêt absolument incroyable, puisque l'Air Force belge s'est allié avec la SOBEPS, qui était un organisme de recherche ufologique.
C'est le GEPAN belge, c'est ça
Même pas, parce que c'était privé, tandis que nous, le GEPAN, ça fait partie du CNES quand même. Donc voilà, ça a quand même un statut un peu officiel.
Ouais.
Les gens se sont penchés, beaucoup de scientifiques extrêmement sérieux se sont penchés sur le phénomène. Et puis il y a eu cette photo, la photo du petit Rechin qui est bien connue, qui a fait le tour de la planète, qui a fait la couverture de tant de livres, qui a été expertisée au ministère de la Défense belge par 32 personnes. Enfin, c'est incroyable. Et puis on s'est rendu compte, quelques quelques années après, on s'est rendu compte que c'était juste une maquette en frigolite qui avait été faite. Bon, donc, frustration, déception, mais on se rend compte que c'est, en fait, c'est un vieux réflexe. Ça, c'est humain, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours le désir, il y a toujours des petits malins pour venir brouiller les pistes et tout casser. Je crois que ça fait partie de l'ADN humain. Hein.
Parce que là, regardez, là, tout le monde se plaint en fait qu'on ne parle pas assez d'OVNI dans les médias mainstream. Mais là, je peux te dire que là, ils sont vaccinés pour un paquet de temps.
Oui. Ouais.
Là, ils ne vont pas replonger si vite s'il y a un truc.
Il y a eu l'autopsie de Roswell. On a toujours vécu ça. Il y a des allers-retours. Mais moi. Je poserai une autre question, c'est-à-dire quelle est l'intention derrière tout ça aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après la fausse autopsie de Roswell, on s'était dit, bon, on se rend compte qu'il y a des tenants, des aboutissants et des enjeux qui nous échappent aussi. Je pense qu'il y a toujours une désinformation en jeu, quelle qu'elle soit.
Cependant, là où je rejoins Bob, c'est que c'est un phénomène particulièrement ancré en France. Enfin, pendant que Rémi Gaillard nous fait des canulars, on a la chef du renseignement américain qui n'écarte pas l'idée des extraterrestres.
Mais aux États-Unis, il y a aussi plein de petits malins. Qui s'amuse à faire des fakes.
Les fakes, à peu près 99%
bien sûr, mais bien évidemment. Sauf que moi, je dis toujours, ce n'est pas les 90% qui sont fakes qui sont intéressants, c'est ceux qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, aujourd'hui, on a un pays et on a une armée qui dit il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on valide comme étant physiques et en tout cas exogènes.
Je vais me faire l'avocat du diable, je ne crois pas que Rémi Gaillard soit allé jusque-là dans l'analyse.
Non.
Lui, c'est juste montrer qu'effectivement, il faut être un peu vigilant et qu'on peut se faire avoir. Voilà, je pense que ça s'arrête là. D'ailleurs, il a retweeté, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a retweeté un truc de Elizondo en disant, regardez, aux États-Unis, il y a quand même des trucs sérieux qui se font.
D'accord. Moi, je pense que ça va plus loin.
Voilà.
Je pense que même si l'intention à la base n'est pas affiché. Y a une sorte d'imprégnation comme ça du fait qu'on peut jouer avec qu'on peut décrédibiliser au fond que c'est un sujet qu'on peut malmener, qu'on peut maltraiter, qu'on peut chahuter. Voilà. Or je trouve ça vraiment triste parce que je pense que le sujet on ne doit pas maltraiter, on ne doit pas chahuter ce sujet-là. C'est un sujet vraiment qui est important. Mais je crois qu'il est admis de façon vraiment générale qu'on peut se permettre.
Après,
tout est permis. Concernant les ovnis, tout est permis.
Alors, après, où je le remercie, c'est qu'il a au moins rapidement dit que c'était un canular. Absolument. Pas comme le petit Reichin qui attend quelques années.
Tu avais eu la même histoire avec le crop circle qui avait été refait entièrement.
Ouais, bien sûr. Voilà. Mais encore une fois, c'est ce que j'avais dit à l'époque du crop circle, puisque j'avais eu le mec qui l'avait fait. Hein. Je ne sais plus quel était l'instigateur.
Mais n'oubliez pas non plus que pendant des années, nos médias français. On présentait le sujet à grand éclat de rire. Et
cela dit, 90% des médias là ont balancé ces vidéos avec la musique d'X-Files. J'ai regardé tous les sujets.
On y a toujours droit. On a des chaînes très importantes que je ne citerai pas qui ont présenté le rapport d'OVNI
du Pentagone.
Du 15 juin 2021, en plaisantant et en rigolant et en jouant les petits hommes verts. C'est une chose admise.
Oui, surtout en France. Hein. On a une très haute opinion de nous, on sait tout, on est plus orgueilleux, plus royaliste que le roi, meilleur que les Américains, meilleur que les Anglais.
Toujours se dire une chose, c'est que parfois on rit parce qu'on a peur.
Mais c'est ça.
Oui.
Mais alors moi je suis complètement d'accord avec toi, parce que pour le coup, c'est souvent ça, c'est qu'en fait on remet en question les croyances et les pensées des gens, et tout d'un coup ça les perturbe dans leur quotidien, et donc ils préfèrent en rire que de se dire il y a une possibilité.
Moi j'ai une explication, je pense que c'est organique. Lorsqu'on s'enfonce une écharpe dans la main, notre organisme rejette, parce que c'est quelque chose d'étranger. Mmh. Et chaque fois, et psychologiquement, quelque chose qui nous apparaît étranger à notre système de pensée, à notre culture, et on a tendance aussi, de la même façon, à rejeter.
D'accord. Bon, en tout cas, c'était important qu'on fasse un point sur cette...
Mais des histoires comme ça, on en aura d'autres.
J'imagine bien, surtout qu'aujourd'hui, la technique, par contre, on n'a toujours pas compris ce qu'avait volé, en fait.
Ah si, c'est un drone avec un LED. Je l'ai retrouvé.
D'accord, ok. Parce que j'ai vu passer justement des drones. En termes de tic-tac, tout est...
Non, mais t'as des drones avec des lumières jaunes comme ça, quand ils volent, franchement, c'est exactement ça.
D'accord. Bon, et ça sent pas bon pour les ufologues, hein, je vous le dis.
L'air des drones a plombé l'ufologie.
Et pas que, l'astronomie aussi.
Bon, c'est l'enfer. En tout cas, voilà, il était bon que l'on fasse un point sur cet OVNI en Occitanie.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
C'est la Libre Antenne, comme tous les lundis. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Tom, je vois que ça parle beaucoup aussi. Hein, donc,
forcément. Là, on a fait un débat à la Libre Antenne. Ça fait un débat dans les chats. Bon, il y en a qui digèrent moyen. Après, il y en a qui disent évidemment Rémi Gaillard, c'est un humoriste.
Après, il n'y a pas mort d'homme. Hein.
Mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà, je pense, toujours, voilà. C'est, pour faire la synthèse de ce qui est dit dans le chat, il n'y a pas mort d'homme. Je pense que Rémi Gaillard n'a vraiment pas eu l'intention de vouloir jouer qui que ce soit. L'humour, forcément, c'est taper sur quelqu'un. À un moment donné. Après, nous sommes des passionnés d'OVNI, on prend le sujet à cœur, c'est vrai qu'on va réagir, mais je pense que Rémi Gaillard ne voulait pas aller si loin dans ça, et que... Et c'est, voilà, après, tous les avis sont assez contrastés dans le chat.
C'est un joli coup pour lui, hein,
c'est un joli coup, et puis il ne faut pas oublier qu'avant tout, il était plutôt à charge contre le traitement médiatique.
Alors moi, personnellement, je trouve que ça n'ajoute rien à rien, parce que ça fait des années que des apparitions d'OVNI avec des tas de choses. Donc, on attendra la millième, la deux millième, la trois millième démonstration avec des drones ou autre chose. Moi, personnellement, voilà, je pense que ça n'ajoute rien, ça n'apporte rien au sujet.
01 86 22 21 20. Egon Krägel est avec nous. Je vous rappelle qu'il est dans l'actualité avec OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Et puis, dans ces zones paranormales, il est là toujours. C'est Jocelyn F. Keller. Ce sont nos experts ce soir. Tom est aux réseaux sociaux. Et puis, Thomas est avec nous. Bonsoir Thomas, comment allez-vous ?
Bonsoir Bob et bonsoir à toute l'équipe.
Bon, ravi de vous accueillir. Vous êtes où Thomas ? En France ? À l'étranger ? Quelque part ?
À Aix-en-Provence, j'ai pas bougé.
Aix-en-Provence. Ah, mais c'est vous, non, la semaine dernière, qui aviez vécu plusieurs choses. Je vous dis, vous reviendrez la semaine prochaine pour nous parler de ce que vous avez vécu au château de Vosges. Donc, c'est ça ?
Exactement.
Ah, d'accord.
C'était l'incroyable photo.
Ouais, c'est ça. Oui. Donc, la photo, d'ailleurs, on n'a pas eu de retour. Si vous vous rappelez de l'image de la semaine dernière où vous voyez cette silhouette hein, dans le château. Et puis, vous m'avez dit que par la suite, vous avez vécu quelque chose. Donc, on a envie de vous entendre. Je crois que vous avez vécu quelque chose. Vous étiez en compagnie d'un médium, vous, c'est ça ?
Exactement. Donc, l'histoire s'est passée en juillet 2005. Donc, ça remonte il y a plus de 15 ans maintenant. Et si vous voulez, je devais participer au colloque de CUR à Vichy au sujet de Glozel.
D'accord. Donc,
de Glozel, oui.
OK.
Donc ça dure deux jours et on s'est dit avec une amie de trouver un logement à proximité de Vichy. Et on a choisi donc le château de Bosse qui est assez plaisant. Et c'était surtout pas cher parce que j'étais étudiant à l'époque. Donc pour pouvoir participer au colloque. Et donc, je suis parti en compagnie d'une amie qui s'appelle Marie Delorme et qui est archéologue, mais aussi médium. Elle a écrit deux livres, sur ses contacts avec Marie-Antoinette, qui s'appelle L'anneau sacré du temple, et le second, c'est L'épidore ou La croix dans le cercle, qui sont vraiment des livres délicieux sur ses contacts médiumniques. Et moi, j'ai voulu la tester, si vous voulez. Je connaissais l'histoire de Vosges, je l'ai découverte au travers de l'émission Mystère, qu'on connaissait à l'époque. Et j'ai dit, je vais faire le test. Elle ne connaît pas du tout le lieu, je vais l'emmener, puis on verra bien ce qui va se passer ou pas. Voilà. Donc, le premier jour, on arrive au château en pleine journée, on dépose les affaires, on repart, et on rentre au château pour le couchage. Et on emprunte déjà une route et on se trempe de bifurcation et on rentre dans une immense forêt toute droite. Donc on avait mis la radio en fond sonore pour parler, discuter. Et à un moment donné, on ne sait pas d'où ça venait, mais d'un coup, je capte, j'entends des chants de moines.
Des chants de moines, c'est ça. D'accord.
Des chants de moines, exactement. Okay. Je tends l'oreille sur la radio, ça ne provenait pas de la radio, et je regarde la conductrice, Marie, je lui dis, mais Marie, t'entends ce que j'entends ? Elle me dit, toi aussi, t'entends des chants de moines ? J'ai dit oui. Déjà, pour planter un peu l'ambiance. Donc, ça ne provenait pas de la radio. Mais quelque part de la forêt, on a fait quand même demi-tour, parce qu'on s'est trompé de chemin. Et là, on va dans le château. Donc, chacun regagne sa chambre. Et je vais pour lui dire à demain. Donc, je rentre dans sa chambre. Et avant de taper dans sa chambre, je toque. Et là, il y avait un petit croisillon en fer sous la porte. il y a une sorte d'électricité qui surgit, toute blanche. Bon, je tape et je dis, Marie, est-ce que tout va bien ? Elle me dit, vas-y, rentre, je suis en contact. Bon, et effectivement, elle avait eu un contact médiumnique en direct, où sans lui parler de l'histoire, hein, donc j'étais très sérieux sur le point de départ, elle ne connaissait ni le lieu, ni les fameux occupants, entre guillemets, du site, ni son histoire. Et là, elle rentre en contact avec le seigneur de Vos, en cheval. Elle voit, donc elle discute avec, elle échange les données, en tout cas elle prend des notes, il lui raconte son histoire. D'un coup, surgit une jeune femme, très jeune, qui se dit être emprisonnée et puis et jetée ensuite dans les douves du château par la baronne. Et en appelant les esprits, il y a tous les esprits du château qui sont venus dans la chambre. Donc d'un coup, surgit...
C'était un festival, quoi, c'est ça ?
C'était improvisé.
Voilà, c'était un peu le bordel. Donc il y a les paysans pendus qui lui arrivent devant elle pour lui raconter aussi leur histoire. Donc ça commençait à être un peu insupportable pour elle, parce que moi, je voyais strictement rien, je vous garantis. Moi, je faisais confiance, je prenais note, je disais... Ben, elle dit ça, bon, c'est très bien. Ouais. Mais moi, je connaissais l'histoire. Donc, et je vérifiais que, en fait, c'est exactement comme dans l'histoire de Mystère, on a la même version et augmentée. C'est-à-dire, j'avais des prévisions encore plus en détail sur l'époque, sur l'âge de un tel et un tel. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est le premier soir. Et puis, donc, je dis, excuse-moi, Marie, mais vu la situation qui est assez catastrophique, je ne sens pas de dormir tout seul. Donc, c'était des grands lits. Elle m'a hébergé. Pour la soirée.
D'accord.
Et dans la troisième volet de cette histoire, on va dire, le lendemain matin, donc la lumière elle s'est levée, on devait être au colloque à Vichy, donc il fallait être presto, et l'heure du petit déjeuner, c'est en bed and breakfast par la baronne, très gentille, très agréable, et moi toujours à la bourre, je vais vite chercher mes bagages pour être prêt, et au chemin du retour, il y avait une porte qui était ouverte dans une des chambres. Et je regarde par curiosité, en fait. Hein. Mmh. Donc, une chambre en enfilade à deux salons. Et entre la porte des deux salons, d'un coup, je vois surgir une masse blanchâtre en forme d'électricité qui était là, qui était présente. Et j'ai pu vraiment l'observer entre 20 et 25 secondes jusqu'à ce que j'entends « Thomas, dépêche-toi, on va être en retard, descends vite ». Voilà, donc j'ai pu faire l'observation, une observation de
d'un spectre, en fait, c'est ça, d'un spectre, c'était spectral ce que vous avez vu.
Exactement, en forme humaine, hein, mais en matière, pas en forme de fumée ou autre, tout ça, mais vraiment comme un aspect électromagnétique, électrique, blanc. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était la petite histoire de Vos, qui est un château vraiment remarquable. Et là, ce qui est aussi en péril, parce qu'il s'écroule petit à petit.
Mmh. Bah, c'est étonnant. Alors, moi, j'ai retenu une chose. Hein. Pour dormir avec une fille, dites qu'il y a des fantômes dans un endroit et que vous avez peur. Donc ça, j'ai retenu. C'est la bonne leçon quand même,
Thomas. Là, je reconnais bien Bob. Là.
Voilà, là, je me dis, la prochaine fois...
À Fougeray, ça ne marchait pas.
Non, à Fougeray, c'est-à-dire que personne ne voulait dormir avec moi. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, le château de Vos, tu y fais mention
dans
un dossier.
Oui, bah, moi, je connais bien l'histoire parce que j'en ai parlé dans un de mes livres et je connais bien cette histoire. Alors, le volet, comment dirais-je, les vision, on va appeler ça comme ça, de l'ami médium, rappelle effectivement l'histoire du château avec ce châtelain qui a enfermé une jeune femme dans les oubliettes. Elle est morte et après, elle est censée revenir de temps en temps hanter le château. Voilà. Alors, j'ai bien aimé aussi la mention des paysans qui ont été pendus, parce que ça, c'est vrai, il y a une salle des pendus dans le château.
D'accord.
Dans laquelle il s'est commis des choses assez atroces. Mmh. Donc, ça a pu effectivement un peu imprégner l'atmosphère. Après, moi, je suis juste étonné parce que vous dites que c'était en 2005, c'est ça ?
C'était en 2005. Ouais. En fait, on pouvait justement loger dans le château à pas cher. Hein,
oui, ouais, il y avait. C'était Madame Mincer à l'époque, je crois. Enfin, je ne sais pas si vous rappelez le nom, mais c'est pas très grave. Oui, qui tenait le château et qui est la propriétaire. Et elle avait fait un bed and breakfast pour un peu entretenir, parce que c'est un énorme château qui, effectivement, comme vous l'avez dit, tombe en ruine, qui doit coûter un peu comme Fougeray une fortune à entretenir. Par contre. À cette époque et au-delà, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire que les phénomènes paranormaux tels qu'on les connaît au Château de Vaux, tels qu'ils sont racontés, sont surtout dans la période, on va dire, milieu des années 80, quand il y avait le propriétaire précédent, qui était un baron assez, assez folklorique, qui s'appelait Ephraim Tagori de la Tour, et qui disait que toutes les nuits, il allait se promener tout seul dans le château et qu'il voyait une forme lumineuse qu'il avait lui-même baptisée Lucie, d'accord, et qui était donc le fantôme de la fameuse jeune femme qui avait été, mais des siècles et des siècles plus tôt, assassinée de manière un peu atroce dans les oubliettes. Voilà.
Bon, en tout cas, moi j'ai retenu aussi une chose, c'est le chant des moines, c'est-à-dire que quand vous dites avoir entendu ces chants, vous êtes donc en voiture, dans la forêt, c'est ça, si je ne m'abuse, vous entendez ces chants, est-ce que vous les entendez dans votre tête ou bien distinctement?
Ah, distinctement, c'est-à-dire, au départ, je pensais que ça provenait justement de la radio. Donc, et là, effectivement, dans la radio, c'était vraiment un autre. C'était des gens qui parlaient, je ne sais pas sur quelle radio, sur autre. On avait mis ça pour s'occuper. Et elle a entendu le même phénomène au
ça,
même
c'est
moment.
Intéressant. Donc, ça, c'est intéressant quand deux personnes entendent la même chose et ne voient rien. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une vraie. Voilà, il y a quelque chose qui est de mystérieux.
Pour moi, c'est une autre expérience.
Oui, c'est ça.
C'est un peu, il y a l'expérience de la forêt avec les chants monastiques. Et ce qui a pu se passer au château de Vaux. Ouais.
Bon, en tous les cas, ça a été une belle histoire que vous nous avez racontée là, Thomas. Merci en tout cas de nous avoir conté tout cela dans cette libre antenne sur BTLV ce soir. Et écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, embrassez les Aixoises et à très bientôt.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Merci d'être avec nous comme chaque lundi sur BTLV pour cette libre antenne. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous rejoindre et c'est tant mieux. Je rappelle pour ceux qui nous découvrent que BTLV c'est une chaîne par abonnement, à l'instar de Netflix, de Prime Video. Vous pouvez nous rejoindre et avoir accès à des émissions, bien sûr, que vous n'avez pas en clair. Elles sont réservées aux abonnés et c'est d'ailleurs grâce aux abonnés que nous pouvons vous offrir des clairs. Sans eux, BTLV n'existerait pas. D'abord, merci, et si vous voulez les rejoindre, eh bien vous être les bienvenus. Tom.
Alors, on embrasse les Aixoises, mais pas les Aixois.
Non. Bien sûr qu'on les embrasse aussi.
Si seulement ta femme regardait le direct.
Hein. Oh, bon, ce sont...
Si seulement. Bon.
Elle me connaît.
Bon.
Elle sait que je suis très chaleureux.
Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, je suis d'accord. Il y a des témoignages similaires. Ouais. Bon, évidemment, Fougeray, c'était un incontournable. Véronique l'avait visité, avait ressenti une douleur entre les omoplates, comme si on lui plantait un poignard. Francine nous parle dans le Lot-et-Garonne du château de Bonaguil. Jocelyn, je ne sais pas si...
Je ne le connais pas, celui-ci.
Si tu connais, Egon peut-être, le château de Bonaguil, non. On parle d'une dame blanche qui viendrait toutes les nuits sur le coup de 3 heures. Je ne sais pas si t'as envie
quelqu'un arrive à faire une photo, une vidéo.
Si vous savez que c'est récurrent, il faut essayer de prendre une
photo. C'est fascinant, voilà. L'histoire des dames blanches.
Moi, j'avais adoré, je me souviendrai toujours dans la première fois que je suis allé, non, pas la première fois, la deuxième fois, où j'avais emmené une centaine d'abonnés à Fougeray. Je me souviendrai toujours d'une... Dans un des couloirs, il y a un petit renfoncement, je crois que j'en avais déjà parlé, où il n'y a rien au bout, c'est un peu comme une voie sans issue. Et on ne sait pas pourquoi il y a ce boyau là, qui devait certainement, peut-être à l'époque, débouler sur quelque chose, ou c'était une évacuation, ou je ne sais pas quoi. Je me souviens qu'on faisait plein de photos au hasard, comme ça, et quand on a regardé cette photo, il y avait vraiment une forme évanescente, spectrale, qui était dans ce petit boyau là. Et pourtant, à l'œil nu, on n'avait rien vu. Donc c'est aussi intéressant de voir que les appareils photos, les vidéos, les caméras captent des choses qu'on ne voit pas. Et puis, après, je ne sais pas du tout ce que c'était. Hein. C'était peut-être de la brume. Bon, à l'intérieur de la maison, c'est rare, une brume, même s'il y fait froid dans ce château. De la poussière. Mais c'était quand même assez volumineux. Ouais. Hein, ça. Donc, c'est toujours intéressant. Si vous pouvez, en tout cas, prendre des photos, même au hasard, dans ce genre d'établissement, et on peut arriver à avoir quelque chose.
Et juste pour revenir sur l'histoire de Vos, il y a un... Podcast, il y a des podcasts qui existent qui sont très très bien faits et il y en a un qui retrace la fameuse émission de Jean-Yves Casga en 84. Mm-hmm. Il avait été avec une équipe de Radio France à l'époque, qui avait passé deux nuits au château de Vos, et ils étaient avec un médium. Et là, on est en direct avec eux. C'est super bien filmé. Et si vous n'avez pas peur, eh ben, vous êtes vraiment...
Bon, c'est assez aussi...
Ah oui, non, à écouter au casque, c'est
première. La première émission que j'ai faite à Fougeray, Camp Radio, ça prend une dimension mille fois plus importante parce que vous faites vos propres images. Je me souviens que les gens, le lendemain, me disaient j'étais dans mon lit, je ne pouvais pas sortir du lit, j'avais peur, etc. Parce que j'étais avec des médiums dans toutes les pièces. En plus, le château, à l'époque, n'était pas du tout aménagé. Ouais. Donc, c'était que des pièces vides. Il faisait moins 12 dans ce château et les médiums qui disaient « bloqué, je vois un pendu ». Enfin, c'était assez déroutant. Et à la radio, c'est la magie de la radio, c'est que tout le monde s'imagine et se fait ses images. Oh, oui, surtout en direct. Ouais. Donc, c'était assez incroyable. Bon, vous arrivez, c'est BTLV.
On dit aussi que parfois il faut enregistrer.
Oui, bien sûr. Ah ben oui, ça c'est le son.
Au niveau du son.
Ça c'est sûr. Bah, c'est ce qui s'est passé lors de mes deux dernières nuits à Fougeray, où là on a enregistré encore plein de trucs.
Et en 84, quand ils ont fait l'émission, la preuve, entre guillemets, c'est un son qu'ils ont enregistré qu'ils n'ont jamais su expliquer. Ouais. Et qu'on peut entendre dans le podcast. Et le son est effrayant.
Puis ça devait être d'autant plus effrayant.
Il y a une photo qui a été prise, mais elle
mais
peut pas dire grand-chose.
À propos de son effrayant, si vous n'avez pas regardé les documentaires, la partie 1 et partie 2 de Fougeray, et la fin, les sons que je n'ai pas entendus, je dormais littéralement, que les monteurs ont entendus après sur la bande, certains sont effrayants, parce que c'est guttural, c'est comme s'il y avait quelque chose de triste. En tout cas, vous le savez, BTLV, c'est une autre actualité, vous n'en doutez pas, je l'espère, dans tous les cas, si vous voulez avoir un autre regard sur la vie, le mort, et le monde et la société, eh bien, regardez BTLV.
Le monde bouge, nos sociétés sont en pleine mutation, les systèmes explosent, les courants de pensée évoluent. Et vous, dans tout ça ? Eh bien vous, vous avez la possibilité de vous offrir une autre vision du monde avec BTLV. Toutes les semaines, nos journalistes vous apportent une information différente de celle diffusée par l'ensemble des médias. Retrouvez sur BTLV Le Bœuf par les cornes avec Mathias Lebeuf.
La théorie officielle sur l'assassinat de JFK, elle est consignée dans le rapport Warren.
En vérité, le rapport Warren voulait justifier ses conclusions. Earl Warren, donc président de la Cour suprême, a été convoqué par le président, Johnson, donc. Mm-hmm. Johnson lui aurait dit, en gros, moi je tiens absolument à ce que ce soit Oswald qui soit désigné coupable, parce que je veux pas de Troisième Guerre mondiale avec Cuba, avec l'URSS, etc.
Sans langue de bois, avec Philippe Liénard.
L'élite de ces gens qui sont là pour défendre les intérêts des actionnaires des sociétés qu'ils défendent ont une influence extrêmement forte sur les élections et sur les décisions qui sont prises par les politiques lorsqu'ils sont en place.
Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat.
Ça, BTLV, il y a du mystère, de l'inexpliqué, un volet sociétal qui vous tend les bras. Et vraiment, avec les journalistes de la rédaction, c'est l'occasion pour vous d'avoir un autre son de cloche que celui qui vous est délivré, certes gratuitement partout, mais qui manque souvent de discernement ou qui fait preuve de parti pris. Donc, dans tous les cas, nous, on n'en a pas, on est juste là, on prend et vous disposez. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, sur BTLV, il y a Libre Antenne, il y a du rédactionnel, il y a des documentaires, il y a de la VOD, il y a des événements présentiels. On rappelle que samedi, on a les rencontres du mystère et de l'inexpliqué avec une douzaine de conférenciers. Et la table ronde sera animée par Sandrine Chopin. Et Sandrine, elle est avec nous, mais pour nous parler de toute autre chose. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Bob, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à toute l'équipe.
Bon, on est ravis de t'accueillir parce que, comme tous les 15 jours, tu animes demain une masterclass, c'est ça ?
Alors absolument, alors c'est pas demain, c'est jeudi 18.
Ah jeudi, pardon, jeudi.
Voilà, c'est à 20h, c'est en direct comme toujours, c'est sur inscription sur btlv.fr. C'est Stéphane Hérault, notre expert, notre enseignant spirituel qui est aussi spécialiste de la respiration. On l'a déjà reçu au mois de juillet, ça avait été un véritable succès. Il va nous emmener en fait dans nos mondes subtils grâce en fait à la puissance du souffle, des souffles magiques, il y a cinq souffles différents qu'il va nous faire découvrir. Et il y aura des exercices de respiration en direct. Donc, magnifique. Ça va être un gros, gros succès. Voilà, donc 20h en direct. Dépêchez-vous de vous inscrire parce que les places sont limitées. Mmh. Et ça avait été une magnifique masterclass qu'on recommence, donc qu'on réédite ce jeudi 18 novembre.
On rappelle que c'est totalement gratuit, hein, ces masterclass. Vous y adhérez, vous y adhérez pas. Dans tous les cas, on propose et vous disposez comme à l'accoutumée. Tom, tu mets le lien, bien sûr, avec ce... On s'aperçoit que... Alors, j'ai quelqu'un qui a chanté ici, qui s'appelle Egon Kagol. Le souffle est important, hein. Et il donne des possibilités incroyables.
Je chante encore.
Hein. Oui, c'est ça. Oui, oui.
Non, c'est essentiel. Mm. Parce que chanter, ce n'est que de la respiration. En fait. Mm.
Et en plus, on s'aperçoit...
On s'aperçoit d'abord qu'on respire à l'envers.
Oui, c'est ça. Hein,
on respire mal. On respire en fait la plupart du temps avec la poitrine et ça, c'est le sanglot. Mm. Et on oublie de respirer avec le ventre. Et quand on chante, on est obligé de chanter avec le ventre. Moi, je prends des cours de chant tout le temps. Hein, ça fait des années que je prends des cours de chant et on ne travaille que ça, pratiquement que ça. Pendant... Les cours de chant durent 3 heures et pendant 1h30, on travaille la respiration en fait.
Et on voit qu'avec ce souffle et ces pouvoirs magiques de celui-ci, on peut atteindre les mondes subtils, en tout cas c'est ce que vous démontrera Stéphane Hérault.
On dit que le Bouddha a atteint l'illumination et l'éveil grâce à la respiration. Donc,
exactement, tu fais bien de le dire et c'est ce qui va en tout cas être rappelé, j'en suis sûr, jeudi dans la masterclass. Merci Sandrine d'avoir été avec nous brièvement ce soir pour nous parler de cette masterclass totalement gratuite sur inscription et Tom va mettre bien sûr tout cela à votre disposition. Jingle. Non, il n'y a pas de jingle. Donc, en fait, il n'y a pas de jingle sur le conducteur.
Ben, fais-le en beatbox.
Voilà.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
La libre antenne, on va reprendre le chemin du témoignage avec Pierre qui est avec nous. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2-3 ans, il y avait Gérard Darmon et un autre acteur, qui, Philippe Lelouch, je crois, lors du tournage d'un truc sur un bateau, ils ont raconté avoir vu, alors qu'ils étaient sur le pont du bateau, à l'arrière, comme on l'a fait lors des rencontres du mystère et de l'inexpliqué, en fait, ils regardaient le ciel et tout d'un coup, ils ont vu quelque chose arriver au-dessus du bateau et plonger, enfin, un truc de malade, ça les a scotchés tous les deux. Et on va retourner en croisière, mais cette fois-ci avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Ravi de vous accueillir Pierre. Vous nous appelez d'où ?
Eh bien là, j'appelle de Rome. À dire vrai, là, je suis dans la famille à Rome. Là.
Ah ben c'est difficile la vie pour vous. Hein. Rome, c'est magnifique.
Ah, hein. Oui, là je suis parti faire un petit tour. Là, c'était les vacances, la fin du boulot. Donc je suis parti un petit peu en Italie voir la famille.
Eh bien écoutez, ouais, profitez-en bien.
Rome, c'est vite. Hein.
Roma.
Ouais. Roma, très belle ville.
C'est magnifique. Ouais. Alors Pierre, racontez-moi ce qui vous est arrivé.
Ben alors, voilà, moi, c'était en 2010, donc je partais en Corse voir ma sœur. Mm-hmm. Donc, c'était le mois d'août, bon, à peu près au début, hein, c'était le 9 ou le 10 août. Mm-hmm. Donc, je prends le bateau à Marseille, il y avait un petit peu de retard et tout, beaucoup de monde. On rentre dans le bateau vers 11h, je descends dans les cales, et puis il faisait une chaleur pas possible, il y avait des gosses qui jouaient, qui se tiraient des batailles de papier cul mouillé, enfin c'était bien chaud. Au bout d'un moment, je craque, il était 2h30 du matin, 3h, là j'en pouvais plus, j'ai dit je monte prendre l'air sur le ponton, j'arrive au bord de la piscine, là, je me mets sur un banc, et je me dis, bon, mais je vais me fumer un petit cigare, j'avais un cigare qu'on m'avait donné, que ma mère m'avait rapporté de Cuba. Je dis, bon, je vais me fumer mon petit cigare tranquille.
C'est les bons.
Je vais pour l'allumer, puis j'entends un bruit.
Ouais.
Un bruit d'air qui était froissé, comme si un bambou fouettait l'air, quoi. J'entends un truc comme ça, donc je cherche dans le ciel, et puis je vois comme une colonne de nuages, comme ce qu'on voit derrière un réacteur d'avion, là, à peu près la même taille,
ouais,
mais qui descendait verticalement vers moi. Mmh. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, mon cerveau essaye de comprendre ce qui se passe. Je me dis, bon, ben, ça doit être un petit avion, mais je le vois pas, qu'il y a un moteur qui fume. Je vais sûrement assister à un amérissage. Enfin, je commence à me faire un film dans ma tête. Et puis, le truc continue à descendre. Et puis, je vois une lumière à la sortie de ce tube de nuages. Là, je vois une lumière blanche assez vive, qui m'éclaire une fois, qui éclaire deux fois, puis trois fois, et là, d'un coup, ouf, il se met à l'horizontale, il y a un truc qui sort du nuage à l'horizontale, là, le nuage se disparaît tout de suite, quoi, et il y a un cigare, un objet, quoi, métallique, de la forme d'un cigare, bien pointu de chaque côté, quoi, complètement.
Non, on a coupé l'auditeur, là, s'il vous plaît, donc remettez Pierre à l'antenne, s'il vous plaît. Ah, vous avez raccroché, Pierre. C'est pas possible. Pierre, est-ce que vous êtes là ou pas ? Pierre,
remets. Oui, je suis là.
Voilà, excusez-nous, on a été coupé à l'antenne. Vous disiez, donc, vous expliquiez.
C'était un cigare.
C'est métallique.
Voilà, ouais. Tout à fait. Un cigare couleur inox. Vraiment sans fenêtre, sans avant, sans arrière, quoi. Mm-hmm. Mis à part cette lumière qui est sortie quand il est descendu. Impossible de savoir où il est le devant ou le derrière.
Vous parlez d'une lumière, elle sortait d'où, la lumière? C'est lui qui émettait
cette... La lumière, elle sortait du bout du nuage, quoi. C'est-à-dire que le tube de nuage qui descendait, il y a cette lumière qui a apparu vraiment au bout du nuage qui continuait à descendre progressivement, quoi. Elle a éclairé trois fois successivement, jusqu'à que le cigare se mette vraiment à l'horizontale d'un coup.
Ok.
C'est très très bizarre, c'est sorti très rapidement, quoi. Il s'est mis à l'horizontale, il était vraiment à, quoi, je dirais, 200-300 mètres de hauteur au-dessus du bateau, quoi.
Ouais. Mais quelle taille, vous pouvez estimer?
Ben, je dirais qu'à peu près, je veux dire, comme ça, en regardant dans le ciel, je mettrais, à peu près mes deux doigts écartés, quoi, à peu près, disons, 40 centimètres de longueur, quoi. Voilà, donc c'est assez long quand même.
Oui.
Vu qu'il était, bon, il était assez haut quand même, 300 mètres. Et donc là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Bon, là, je comprends tout de suite que c'est plus un petit avion, que j'assiste à un truc hors du commun, quoi. Donc je regarde autour de moi pour voir un petit peu s'il y a du monde. Je vois que j'entends deux voix. Ils étaient sur la passerelle du haut. Et donc je tourne la tête, je vais pour appeler. Je fais, oh! Et là, le truc, il fait pouf! Il disparaît d'un coup, quoi. Donc je reviens vers voir pour pas le perdre des yeux. Je dis, merde, il est parti, quoi. Et là, j'entends la porte qui se claque. Donc les mecs étaient rentrés et pouf, il reapparaît, quoi. À peu près une distance de deux bras, quoi. Je veux dire, j'écarte les bras, il a fait un bond dans le ciel, il a disparu d'un point à un autre. En une seconde, il a réapparu de l'autre côté, quoi.
Et Pierre, tout ça, c'était silencieux?
Sans un bruit, sans rien.
Au début, Pierre parlait d'un bruit un peu comme un bambou qui fouettait l'air.
C'était à la descente. Uniquement à la descente. Oui. Quand il est descendu, et encore, ça n'a pas duré tout le temps. Ça a été vraiment, je pense, c'est quand il a pénétré notre atmosphère qu'il a fait ce bruit-là, quoi.
Donc, c'est juste
quand il est rentré, quoi.
Il n'y a que vous qui avez vu cet objet, en fait. Puisque
il n'y avait pas d'autres témoins sur le pont. J'étais seul. Non, il n'y avait que ces deux gars, et ils sont rentrés au moment où j'ai essayé de les appeler. Le truc, il a disparu direct. C'était curieux, quoi.
Alors, la couleur de ce cigare,
inox argenté.
Inox, c'est ça?
Ouais.
J'avais pas
inox,
entendu tout à
l'heure. Vraiment pur inox brossé, quoi. Inox brossé. Quand il est resté fixe, à un moment, j'ai eu l'impression qu'il vibrotait un peu, quoi.
D'accord. Donc, ça veut dire que inox brossé, ça veut dire quand même qu'avec, je sais pas, il faisait beau ou pas, c'est-à-dire que la lune était pleine. Est-ce qu'on voyait bien? Ça se reflétait quand même. Donc, on voyait qu'il était assez visible.
Ah oui, il était bien visible. Hein. Il était bien visible. Oui, il était net, hein, vraiment.
Vous avez dit pas de hublot, pas d'ouverture, d'empennage, rien du tout. Très lisse, le cigare classique.
Il y a un côté tic-tac aussi, comme on voit tout cela. C'est ce qu'on a appelé maintenant les tic-tac, c'était les cigares de l'époque.
On dit que souvent ils sont de très grande taille parce que pour beaucoup d'ufologues depuis longtemps, ce sont ce qu'on appelle des vaisseaux mères. Ouais. Parce qu'on a vu sortir, émerger de ces gros engins comme ça, cylindriques, des petits vaisseaux.
Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est, encore une fois, c'est la prouesse technologique, parce que quand même, un cigare, un truc, il n'y a rien. Tu te dis, mais comment il tient en l'air? Comment il vole?
Il n'y a pas d'objet terrestre qui est capable de ça.
C'est surprenant.
Si, il y a les drones, il y a les petits drones, mais c'est les petits drones. Quoi.
Pas de cette taille-là.
Pas de cette taille-là, c'est ça.
On est en 2010. Hein.
Et puis là, on est il y a plus de 10 ans.
Ah, mais ils sont présents depuis très longtemps. Il y avait l'observation d'un pilote d'hélicoptère, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui s'appelait Michaud. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que le cigare avait été détecté à la fois par le radar de l'avion et par le radar militaire qui était au sol. Et il était gigantesque, mais absolument gigantesque. C'est quelque chose qui devait faire 500 mètres de long. L'hélicoptère à côté était absolument minuscule. Et c'était inexplicable parce qu'on disait qu'un tel objet qui allait à une telle vitesse aurait dû provoquer des remous absolument incroyables. Jean-Pierre Petit s'était penché d'ailleurs là-dessus en disant... Il aurait dû avoir un mur du son, déjà un bang sonore absolument incroyable. Des vitres auraient dû voler en éclats parce que c'était assez bas. Et c'était quelque chose de colossal, absolument colossal. Et ça a frôlé l'hélicoptère. Et ce qui était très étrange, c'est que l'hélicoptère n'a pas bougé non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mouvement d'air, etc. Et détecté par les radars, c'est très intéressant. Celui-là, il a été détecté par des radars.
Pour vous, juste pour vous. pour comprendre ce que le déplacement d'air peut faire, regardez un TGV passé. Voilà, vous regardez ça quand vous êtes sur le quai, vous avez vu ce que ça déplace. Oui. Et imaginez ces engins qui sont monstrueux, qui vont très très vite, qui font des mouvements pas possibles. À côté, vous savez que ça peut, un hélicoptère peut se casser la gueule, notre avion peut être complètement déstabilisé à cause de cela. Et là, visiblement, on a la sensation, un peu comme les baleines quand elles voient des petits bateaux, elles s'approchent à côté tout doucement et sans faire de vagues, elles repartent. Mmh. On a la sensation que c'est un peu ça. En tout cas, Pierre, pas eu d'explication. Oui. Finalement, ça fait depuis 2010 maintenant. Non, ça fait 22 ans, on est en 2022 ou 2021, 11 ans, voilà, je ne sais plus. Voilà,
11 ans.
Ça vous a marqué et ça vous a ouvert le champ des possibles sur ce phénomène-là?
Ben oui, c'est surtout là, quand il, en fait, à partir du moment où donc j'ai appelé les gars et que j'ai vu que je ne pouvais pas appeler personne, j'étais tout seul à voir ça, il s'est mis à remonter. Oui. Il a commencé à remonter et là, il a refait un tube de nuage, c'est-à-dire que là, il disparaît complètement, on ne le voit plus, mais le nuage monte. Mmh. Et là, j'ai carrément vu l'atmosphère de notre planète, quoi. Je l'ai vu pousser, c'est-à-dire que je l'ai vu, si vous voulez, il a carrément freiné à un moment donné, c'est-à-dire que ça s'est presque éclairé, c'est-à-dire que je voyais carrément l'atmosphère terrestre, quoi, comme une bulle de savon.
D'accord.
Quoi. Et je l'ai vu pousser à l'intérieur et la bulle a cédé, quoi. Je l'ai vu qu'il forçait, quoi. Il a été retenu un petit peu et poum, il a traversé comme une espèce de bulle de savon, quoi, qui entoure la planète, quoi. Et là, il a redisparu un petit moment et puis il s'est remis en stationnaire et il était presque un peu plus gros, comme s'il y avait un effet loupe. Il était presque un peu plus gros que quand il était devant moi. Et ça m'a vachement surpris, quoi.
En tout cas, joli témoignage.
Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ?
Alors, Pierre, ce qui est très intéressant, c'est que vous donnez un détail qui est récurrent et qu'on peut découvrir à travers le temps, c'est-à-dire que souvent, les témoins ont décrit ces grands cigares comme ça, métalliques, et qu'ils se cachaient dans des nuages. Mmh. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils sont entourés par une sorte de halo, un petit peu brumeux, etc. Et ils se dissimulent dans des nuages.
Des gens disent, on voit que la pointe, ou que
c'est
que
ça,
des trucs.
Mais c'est voilà, ça. Donc, et ça, c'est des observations qui datent des années... Là, je vous parle d'observations qui datent des années 50. Ouais. Vraiment 50, 60.
Ah ouais, carrément.
Ah oui, absolument.
Par contre, Egon, tu connais...
Jamais entendu. On m'avait dit que des fois ils se cachaient, enfin les gros vaisseaux, mais sous coupe, ils pouvaient se mettre derrière un gros nuage, quoi, qu'on avait l'impression qu'ils faisaient partie du nuage, mais j'avais jamais su que les petits ovnis là faisaient, former des nuages autour d'eux. Quoi,
ah si, absolument. Mais surtout les cigares. C'est pour ça que le détail que vous avez donné est très intéressant. Beaucoup de cigares ont été observés comme ça, nimbés par une sorte de halo comme ça, un peu, vous voyez, brumeux, un peu fantomatique comme ça, et qui visiblement est une façon de se cacher, de s'occulter. Mais alors, vous savez, après, de toute façon, il y a une chose absolument essentielle en philosophie, c'est que tout ce qui se révèle se dérobe en même temps. Donc, donc ça,
c'est ouais. Je me demande quelle matière c'était ce nuage, parce qu'il disparaissait très très vite, quoi. C'est pas un truc qui restait comme un réacteur d'avion.
Pierre, si on savait ce que c'est, on n'aurait pas monté BTLV.
Il y a eu plein d'hypothèses. On parle beaucoup de ionisation,
Oui, puis là j'ai fait des émissions aussi sur le déplacement des ovnis. Il y a plein de théories. Le fait que il y a une bulle autour de cet ovni qui l'empêche qui empêche le frottement, l'éther, cette matière noire qui permettrait peut-être aussi l'accélération.
Il y a les recherches de Jean-Pierre.
Bien sûr, la magnétohydrodynamique, la MHD, etc. Bon, Pierre, merci d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV.
Il y a la fin de l'observation qui est encore plus exaltante.
Je croyais qu'on l'avait vu déjà, la fin. Donc,
La fin, non. Après, je vous dis, il s'est mis en stationnaire. Il paraissait un peu plus gros que quand il était près de moi. Mais là, il a ouvert une espèce de passage. En fait, il y a 7 points rouges qui se sont allumés, qui sont comme de la braise quand on souffle sur des braises. Vous voyez, ça a fait 7 pastilles rouges qui se sont mis devant lui, quoi, qui flottaient carrément devant lui, qui avaient la grosseur d'une pastille, ça avait la grosseur de l'OVNI à peu près. Il y en avait 7 comme ça en forme de disque. Et il a pénétré tout doucement dedans, et je voyais que petit à petit, il disparaissait à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je voyais le derrière de ça, et je voyais qu'il ressortait pas derrière. Et ça, c'était le plus impressionnant, quoi. C'est de le voir ouvrir cette espèce de panneau rouge, couleur braise, là, qui se sont légèrement connectés entre eux. Il y a eu un mini-éclair pendant une seconde et demie. Ils se sont connectés par des petits éclairs bleu-vert d'un panneau à un autre, que d'un point rouge à un autre. Puis ça s'est stabilisé et le truc a avancé dedans, tout doucement. Et je l'ai vu disparaître vraiment de moitié, puis de trois quarts. Et d'un coup, tout s'est éteint. Et là, je suis resté comme un con à me dire « qu'est-ce que c'est, quoi ?» Voilà, quoi. C'est ça la fin, quoi, qui est le plus extraordinaire, parce que moi, j'ai jamais vu personne n'en parler. J'ai cherché pendant 10 ans. Le seul qui m'a dit ça, c'est le mec du MUFON qui s'appelle Pascal, l'isophologue, là, qui m'a dit qu'il y avait d'autres témoignages dans MUFON aux États-Unis. Quand j'avais fait ma déclaration au GEPAN, d'ailleurs, les États-Unis, visiblement, m'ont envoyé un mail pour me demander ce que j'en pensais, quoi, de décrire ce que j'avais vu. Il n'y a que, visiblement, le MUFON... États-Unis qui auraient vu cette porte-là et un ovni rentrer dans cette porte.
Bah, on peut imaginer qu'effectivement, c'est un vaisseau mère qui attendait au loin et que le cigare est rentré dans celui-ci et qu'après, ils ont disparu. En tout cas, Pierre, merci de m'avoir livré ce témoignage sur BTLV ce soir. Les ovnis en croisière, ça existe aussi, effectivement. Mais en même temps, le ciel est tellement dégagé qu'on peut peut-être aussi, quand on est en pleine mer, voir des choses que l'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Et donc, c'est les étoiles, rien que les étoiles.
Le ciel et l'eau.
Exactement.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
La libre antenne 01 86 22 21 20. on fait les réseaux, Tom.
Bon, bah, ça intrigue tout le monde, ces ovnis, évidemment. Le terme de vaisseau mère, c'est assez intéressant, Egon, je vais t'en reparler après. On se pose la question, mais pourquoi on n'a pas filmé? Bah, forcément, on était en 2010, je ne sais pas vous, mais on n'avait pas trop encore ce réflexe de filmer.
Même en 2021.
Bah oui.
Même en 2021.
Attention, quand vous êtes subjugué par quelque chose, absolument, vous n'avez pas forcément le réflexe de sortir votre téléphone.
Mais on parle de vaisseau mère, Bob, ça t'a pas fait penser à Fred Portigal,
oui,
dont tu as fait un article dessus.
Avec lequel tu es en contact d'ailleurs.
Avec donc, lequel je suis en contact.
C'est
le
spécialiste qu'on a vu la semaine
dernière.
C'est
un ancien ingénieur de l'US Air Force et de Boeing qui a développé un télescope et qui voit des choses qu'on ne peut pas voir. Et effectivement, il y a des formes assez équivoques. Et effectivement, je suis en contact avec lui. Il m'a donné accès aussi à d'autres vidéos qu'il n'a pas diffusées et où on voit des choses quand même assez intéressantes. Et il y a cette idée de vaisseaux-mères qui sont immense. Ouais. On parle de plusieurs centaines de mètres d'envergure quand même, qui rentrent dans notre atmosphère, qu'on ne voit pas à l'œil nu et pourtant qui sont observés par nos outils. C'est quand même incroyable.
Bon, ça reste encore une fois un point de vue, des suppositions. On n'a pas de la véracité absolue de ce que cette personne raconte, mais tous les cas, c'est intéressant d'avoir toujours un point de vue. Dans un instant, c'est Bruno qu'on va avoir pour terminer en beauté cette libre antenne. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que toute l'actualité OVNI est sur BTLV.
Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les grands édifices archéologiques sont-ils les héritages d'une civilisation avancée qui nous a précédés? La mort est-elle le début d'une autre vie? L'univers est-il multidimensionnel? Peut-on communiquer avec l'au-delà? La réincarnation est-elle une piste à envisager? Qu'est-ce que la conscience? Pour répondre à toutes ces questions, chaque jour, BTLV invite les plus grands spécialistes en la matière, afin que vous ne puissiez plus jamais dire « Je ne savais pas ». Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat.
L'actualité OVNI sur BTLV, effectivement, dès qu'il se passe quelque chose, en France, aux États-Unis, on relaie l'information, et notamment avec notre ami Bernard Toinel, qui est notre correspondant à Los Angeles. On va rester en France avec Bruno, qui est avec nous au 01 86 22 21 20. Il nous a appelé. Bonsoir Bruno. Bruno, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir Bruno. Vous nous appelez d'où? Vous êtes où en France?
Alors, au-dessus de Melun, à Mormant.
D'accord, donc région parisienne. Racontez-moi ce qui vous... Je crois que vous avez vu un ovni, vous aussi, c'est ça?
Tout à fait. Donc c'était le dimanche 7, donc il y a une semaine. Quoi.
Ah oui, donc c'est tout récent, là. Donc d'accord, ok.
Tout à fait, c'est tout récent. Et on avait été chez des amis dans le Loiret, on est revenu, je me suis installé sur mon canapé pour regarder ma télé. Donc, et j'ai une grande porte-fenêtre juste à côté qui donne direction sud.
Ouais.
Et là, au moment où je me suis installé, j'ai vu un point rouge. Alors moi, il y a beaucoup de trafic aérien qui passe au-dessus de chez moi.
Bah oui.
Donc j'ai l'habitude de voir des avions passer. Mais là, j'avais ce point rouge immobile. Et ça m'a surpris. Donc, je me suis levé tout de suite, je suis allé sur mon balcon, puis je suis allé regarder ça. Mmh. Ma femme m'a accompagné, ma fille aussi. Et il n'y avait pas de bruit, ça ne bougeait pas. Et ça s'est mis à. Comment dire, la lumière rouge s'est mise à s'intensifier, comme si quelqu'un tirait sur une cigarette, en fin de compte. Ça s'est intensifié, ça s'est calmé, et ça a fait ça 5 ou 6 fois d'affilée. J'ai pas pensé du tout à prendre mon téléphone pour filmer. Je suis parti dans le fond de mes affaires pour aller chercher une paire de jumelles pour essayer de voir à peu près ce que c'était, parce que c'était vraiment pas commun d'habitude, quoi. Mmh. Et le temps que je revienne, c'était parti. Mais ça s'est évanoui tout simplement, quoi.
Alors ça, c'est assez marrant aussi, parce que tu parlais tout à l'heure, Tom, du fait qu'on prenne le téléphone pour filmer. En fait, je crois que t'as tellement peur de louper et de perdre ce que tu es en train de regarder, que je pense que tu te dis, si je vais chercher, quand je vais revenir, il n'y aura plus. Et en fait, il faudrait qu'on ait tout le temps ce truc à la main pour dire, voilà.
Et puis le temps de faire son code, voilà, de déverrouiller le téléphone,
et en fait,
etc.
T'as peur, en fait, tu vis quelque chose et tu vois quelque chose de tellement étrange, ou en tout cas pas habituel, que t'as peur, tu te dis, je le prends.
C'est l'effet de surprise.
C'est l'effet de surprise. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que là, non seulement c'est récent, on est en région parisienne, Bruno, donc est-ce que vous avez cherché à voir s'il y avait d'autres témoins déjà? Est-ce que vous étiez seul?
Non, je vous dis, moi, j'ai ma femme et ma fille, du coup, qui m'ont rejoint, parce que, voilà, moi j'adore regarder tout ça, dès que c'est un petit peu découvert et tout ça, je regarde le ciel, j'arrive à distinguer des avions, les satellites quand ils passent et tout ça, donc j'ai l'habitude de garder la tête vers le ciel.
C'était vers quelle heure?
Oui.
C'était vers
22h55, 20h55 exactement.
D'accord, donc il faisait nuit.
Ouais.
Il faisait nuit. D'accord. Il y avait quelques nuages, et c'était vraiment sous les nuages, hein.
D'accord. Ça a duré combien de temps?
C'était vraiment visible. On va parler de 30 secondes, à mon avis. Temps que je le vois jusqu'à ce que ça s'en aille.
C'est long, quand même. Alors, quand vous dites que c'est parti, ça a disparu? Ça s'est fondu dans les nuages? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, d'après ce que m'a dit ma femme, parce que moi, j'étais malheureusement allé chercher les jumelles, ça s'est évanoui, tout simplement.
Ça s'est éteint.
En fait, au moment où ça s'est intensifié, c'est revenu en faible lumière, et puis ça a fini par disparaître.
La hauteur, vous pouvez l'estimer ou pas?
Non, pas du tout.
Sous les nuages. C'était sous les nuages, c'est ça?
Ouais, mais
sous
la couverture, des nuages bas, à 300 mètres, à 200 mètres.
On arrive à distinguer avec la pollution lumineuse qu'il y a tout autour, on arrive à distinguer les nuages bas, et c'était vraiment en dessous, quoi. C'était vraiment nettement...
Il faudrait juste faire une recherche météo. Alors,
c'est intéressant, parce que là, c'est tout frais, c'est tout chaud. Si le 7 novembre, vous étiez donc côté de Melun, et que vous avez Melun, Fontainebleau, enfin toute cette région-là, si vous avez vu quelque chose dans le ciel d'assez particulier, n'hésitez pas à nous en faire part, redaction@btlv.fr. Vous nous envoyez votre témoignage et on se permettra de vous rappeler pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Donc, pas de bruit, j'imagine, non plus sur ce phénomène.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'était totalement silencieux. Mmh,
mmh. En tout cas, je ne sais pas si ils ont décidé de se montrer de plus en plus, mais on a beaucoup, beaucoup de témoignages récents de gens qui voient des choses assez étranges.
Et il y a aussi plus d'objets bizarres dans le ciel qu'avant.
C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est drones. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous induire en erreur. Mais en même temps, on a la sensation qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent le ciel aujourd'hui, qui sont plus intéressés. Donc peut-être que la parole se libère un petit peu. Et je voudrais d'ailleurs tous ceux qui ont témoigné ce soir, vous en remercier. Merci Bruno d'avoir pris le temps de nous appeler ce soir en direct pour nous témoigner de tout cela. Si vous avez d'autres informations, ça vous vient, n'hésitez pas à nous en faire part. On sera toujours enclin à vous écouter, comme tous ceux qui souhaitent témoigner la semaine prochaine.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Et voilà, c'est quasiment terminé la libre antenne. On va faire un point sur les réseaux et puis on parle des rencontres après.
On cherche des explications par rapport au témoignage de Bruno. Il y en a une qui a attiré mon attention, c'est celle de Beetlejuice.
Mmh.
L'étoile, hein.
J'ai bien compris.
Évidemment, il y a eu un mystère autour de cette étoile, déjà, qu'on peut voir rouge, et qui a connu ces derniers temps une baisse de luminosité avant de retrouver sa luminosité initiale. Donc peut-être que c'est une étoile qui connaît un nuage de poussière, un vol de poussière qui peut passer devant et qui donne cette illusion de clignotement.
Moi, ce qui apparaît, parce que quand ça disparaît, parce que tu peux perdre de la luminosité, mais de là à ce que ça disparaisse complètement, c'est ça toujours qui est étrange, c'est que vous voyez une lumière rouge et puis ça disparaît.
Il y a des nuages, enfin, il fait nuit, tu vois.
Oui, c'est puis on est au mois de novembre.
C'est pour ça que j'ai demandé si vous avez d'autres témoignages, si vous avez vous aussi vu quelque chose, c'est toujours intéressant. Autre chose peut-être, ou c'était latin? L'ambiance générale ce soir
L'ambiance générale, c'est beaucoup de questions. Alors, il y a eu le débat sur Rémi Gaillard, évidemment, qui a fait beaucoup parler, qui a pris le chat à partie. Il y a des dédicaces, donc je passe le bonjour à mon pote Bélial, c'est Geek Power, ben, on le fait. Un appel à témoins, je vais le passer, c'est Kenzo Amsterdam. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de l'OVNI qui a été vu à Épernay par des centaines de personnes en pleine journée? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non, c'était quand?
Bon, je n'en sais pas plus. Voilà, ça s'est passé à Épernay et il y aurait eu plusieurs centaines de personnes.
Épernay, c'est en Champagne, c'est pas très loin de Paris.
Si on pouvait avoir les dates, ça serait bien.
Bon, bah, écoutez, moi, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que ces deux personnages vont rejoindre les 10 autres qui seront sur la scène de BTLV samedi. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué auront lieu pendant une journée complète. On sera en direct. J'aurai le plaisir de vous accueillir dès 10h et on va aller jusqu'à au moins 22h avec des conférences, des tables rondes, des documentaires qui seront diffusés. J'espère que tu as mis le lien pour que les gens puissent bien sûr réserver leur place. Jocelyn F. Keller, Fernand Schwartz, Egon Kregel, Philippe Nienard, Christian Demers, Joseph Davidovitz, Patrice Marty, Pascal Lafargue, Muriel Siron, Florence Hubert, Françoise Nallet, Anne-David Bichot. J'aurai le plaisir, avec ma camarade de jeu, Sandrine Chopin, de vous présenter ces rencontres. Merci Egon. On rappelle le livre événement OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, en précommande à tarif réduit avec les frais de port offerts en ce moment sur BTLV. On va vous rafficher cette jolie... C'est quoi d'ailleurs l'OVNI là? C'est lequel celui-ci?
Alors c'est un OVNI...
Parce qu'il est quand même incroyable. On a la sensation que c'est presque celui de Phoenix.
J'adore cette photo. C'est un OVNI qui a été photographié dans les années 80 durant la vague de ces objets étranges qui survolaient la vallée de l'Hudson.
D'accord, magnifique objet. En tout cas, il avait l'air balèze aussi hein, celui-ci.
Oui, et je crois que c'est celui-ci qui a fait une démonstration incroyable, c'est-à-dire qu'il s'est couché sur le flanc et qui s'est mis à tourner comme une roue de fête foraine.
Je ne sais pas si tout cela...
Ils font des rodéos, les amis.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont pris cette photo, il y avait une trentaine de voitures qui étaient stoppées sur le bas-côté et qui étaient complètement fascinées. C'est terrifiées en même temps.
Oui. Parce que, démonstration absolue. Merci Egon. Merci Jocelyn également. Zone paranormale, toujours en commande, bien sûr, sur btlv.fr. Un ouvrage incroyable avec des histoires à vous faire frissonner de plaisir. Merci mon Tom, merci à vous qui nous avez regardé, à Pierre-Alexis qui vous a préparé et chauffé à blanc pour passer à l'antenne. Merci à Mathis. Salut, ciao.